Le voyage que vous allez entendre est une rediffusion.
Follow the drinking gourd. Follow the drinking gourd. For the old man is awaiting for to carry you to freedom. Follow the drinking
Si loin, si proche, sur le chemin de fer clandestin au Canada, voyage en quête de liberté. Épisode 3, Céline Develay-Mazurel, Laure Allary.
Pour nous, les descendants d'esclaves fugitifs, cette cloche est un symbole de liberté. À l'époque, quand on l'entendait, on savait qu'une personne venait d'arriver ici, libre.
Bonjour à tous, c'est donc le troisième et dernier épisode de notre voyage en Ontario, au Canada, au fil du chemin de fer clandestin. Depuis deux semaines, en effet, on vous emmène à la découverte de ce fascinant réseau abolitionniste d'assistance et de fuite d'esclaves vers le nord de l'Amérique, jusqu'au Canada notamment. À sa manière, l'Underground Railroad est un mouvement de désobéissance civile, à une époque, le 19e siècle, où l'esclavage était encore la règle. En fuyant, ces hommes et ces femmes en quête de liberté, ces freedom seekers, ont alors fait un pas de géant.
Ils traversaient les lacs quand ils étaient gelés. Dès qu'une occasion de s'enfuir se présentait, ils la saisissaient.
It took a lot of courage to make that.
Il fallait beaucoup de courage pour décider de s'enfuir, partir vers l'inconnu sur des centaines de kilomètres, surtout si vous laissiez derrière vous votre famille et tout ce que vous aviez connu.
Ce sont des héros. La première femme qui a quitté la plantation, c'est une héroïne. Ce ne sont pas des mythes ni des contes de fées, ce sont des personnes bien réelles. Et ensemble, ils ont tissé une ligne de vie.
Si l'on pense à la construction de la nation canadienne et au sentiment d'appartenance à cette nation, comment et où les Noirs se situent-ils? Qu'est-ce que cela nous raconte?
En tournant les pages de cette histoire de l'underground, on relit bien des romans de l'Amérique moderne. À commencer par celui de Colston Whitehead, Underground Railroad. Un roman puissant, terrifiant, sorti récemment qui file la métaphore du train et nous emmène dans les pas de Cora, esclave du Sud qui un jour a décidé de fuir vers le Nord. Vient ensuite à l'esprit « Personne ne connaît mon nom » de l'américain James Baldwin. Lui, qui écrivait « La liberté n'est pas quelque chose que l'on peut donner. La liberté est quelque chose que les gens prennent. Et ils sont aussi libres qu'ils désirent être libres. » En traversant les terres agricoles du sud-ouest de l'Ontario, ces mots résonnent. En route pour North Buxton, là où est née la colonie noire, modèle, dit-on, d'Elgin. Aujourd'hui, au beau milieu des fermes et des champs de soja, un musée, le North Buxton Historic Site and Museum, vient honorer la mémoire des anciens esclaves qui, dès 1849, s'y sont établis. C'est d'ailleurs là que se trouve la cloche de la liberté qu'on a entendue en préambule. Shannon Prince est descendante de Freedom Seekers et conservatrice du musée.
People know the Underground Railroad story and they made it to freedom in Canada.
Les gens connaissent l'histoire du chemin de fer clandestin et l'installation de fugitifs au Canada. Et je pense que c'est important qu'ils fassent le lien avec le Canada, en vrai. Quand les gens peuvent venir ici, marcher sur cette terre que les anciens esclaves ont défrichée, là où ils ont construit des écoles, des églises, des bâtiments, ça a un réel impact sur eux.
C'est pour ça que vous continuez à partager ces histoires.
Oui, c'est pour ça. Là, c'est le fondateur de la colonie. Le révérend William King.
Là, qui est en dessin accroché au mur, c'est son portrait.
C'était un pasteur blanc d'origine irlandaise qui ne croyait pas en l'esclavage, mais qui, dans des circonstances particulières, s'était retrouvé propriétaire d'une quinzaine d'esclaves dans le Sud. Il savait que c'était moralement inacceptable et sa conscience lui pesait. Il a commencé à chercher un endroit où ses anciens esclaves pourraient vivre libres et où d'autres Noirs libres pourraient trouver de meilleures opportunités. Et c'était cette terre. Il leur a enseigné des techniques qui leur seraient utiles ici au Canada. Défricher, drainer et cultiver la terre. Donc pour lui, cet endroit était la ville de Dieu. C'était ses mots. Je crois qu'il était vraiment visionnaire, parce qu'à l'époque, il y avait beaucoup d'opposition dans la région. Des gens qui ne voyaient pas tellement d'un bon œil le fait d'avoir des Noirs pour voisins. Vous savez, nous, les Canadiens, nous avons aboli l'esclavage en 1834, mais c'était quand même mieux que ces Noirs partent un peu plus à l'est. Donc le révérend King, le fondateur, a mis en place de nombreuses règles dans la colonie, parce qu'il voulait contrecarrer tous ces préjugés à propos des Noirs, comme quoi ils étaient paresseux, peu éduqués ou sales. Les terres devaient donc uniquement être vendues à des Noirs, les industries devaient toutes être tenues par des Noirs, les maisons devaient avoir une certaine taille, mais c'est surtout l'éducation, je crois, qui a fait tomber ces préjugés raciaux et qui a créé une entente entre les gens. Parce que son école ici, en 1849, était intégrée, en opposition aux écoles ségrégées. Avant ça, le révérend King avait essayé d'emmener ses anciens esclaves à l'école communale, mais les portes leur étaient fermées. Il a décidé d'en construire une sur sa propriété, et elle était ouverte à tous, noirs ou blancs, peu importe. La première année, il y avait donc 14 enfants noirs et 2 enfants blancs. Mais l'année suivante, il y avait bien plus d'enfants blancs qui voulaient venir dans l'école du révérend King, parce que le niveau était très bon. À partir de là, les gens ont commencé à regarder différemment leurs voisins noirs. Ils ont réalisé, tiens, ils ont des sentiments, ils ont une âme, et cela a vraiment tout changé. Cette colonie a donc été consacrée la plus grande et la plus réussie de toutes les colonies noires du sud-ouest de l'Ontario. Le premier médecin canadien noir, un membre du Congrès en Alabama, des principaux d'université, tous ont reçu leur éducation à Buxton, mais ils sont repartis après aux États-Unis. Il faut que je vous montre cette école à côté.
C'est ce que j'allais vous dire, parce que vous avez cette école, en fait, encore. Elle est encore debout.
Oui, le bâtiment a été construit en 1861, à cet endroit même. Et l'école est restée ouverte de 1861 à 1968.
Je vous suis. On sent le bon parfum, justement, de Buxton et de tous ces grands champs. Alors c'est étonnant, elle ressemble presque à une église en bardeaux de bois blanc avec un petit perron qui est bleu et blanc avec deux colonnes.
Oui, et l'église est juste à côté. Je ne sais pas pourquoi ça ressemble à une église, mais il l'a fait. Donc cette salle date de 1861, le foyer, l'horloge.
Ça paraît complètement resté dans son jus avec un vieux poêle en fer en plein milieu. Et puis il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 rangées de petits pupitres à la fois en bois et en fer.
C'est là que nous sommes allés à l'école, mon mari et moi, nos parents, nos grands-parents. Alors, les règles de conduite. Les étudiants ne doivent pas parler à moins qu'on le leur demande. Il faut impérativement utiliser un langage approprié. Et à chaque instant, les savants doivent se comporter en gentilhomme et en demoiselle. J'adore le fait qu'on les désigne par ce terme, savants, parce que cela pousse à accomplir de grandes choses quand on vous désigne ainsi. C'est un mot très puissant. Au départ, les élèves n'auraient jamais dit ça d'eux. Ils venaient du Sud, ils n'avaient rien. Et être en mesure de recevoir une éducation, c'était pour eux un privilège et un honneur. Ils absorbaient tout comme des éponges.
Mais c'est ce qu'on comprend vraiment dans cet endroit, dans cette grande salle de classe, c'est que l'éducation, c'était la clé et c'était surtout ce qui donnait du sens à la liberté.
It does, it really does.
Oui, tout à fait. Parce qu'ils en avaient été privés dans le Sud. Ils sont arrivés ici avec cette liberté nouvelle qu'ils ont dû appréhender. Je me possède. Je possède une famille. Je possède une terre. Qu'est-ce que cela veut dire? Donc tout ça vous façonne, vous construit. On se dit, j'ai une voix maintenant. Je peux faire ce que je veux.
Fin de la classe.
Yeah. Oui.
Oh, let me show you.
Attendez, il faut que je vous montre.
This is Brian, the
ça, c'est Brian.
Ah, c'est votre mari.
And that's his sister.
Et là, c'est sa sœur. Ici,
and
sa
this
mère.
Is his mother.
Oui, là, c'est toutes les photos de classe que vous montrez.
And this is my dad.
Oui, et là, c'est mon père.
That's my dad.
Ah, sauf que là, on est en 1935.
Et là, c'est le père de Brian.
Yeah.
Ah, on sent que c'est vraiment une communauté soudée.
Yeah. There, Reverend King instilled,
oh oui, le révérend King a vraiment inculqué un sens fort de la communauté à tous ceux qui arrivaient ici. Tout le monde s'entraidait. Et c'est encore très présent aujourd'hui. C'est dommage qu'il y ait autant de vent. Vous seriez sur un tracteur sinon. Brian et moi vivons juste au bout de la route et nos enfants ne sont pas très loin. Notre plus jeune fille est à quoi? 8 minutes d'ici et elle est déjà trop loin.
Hello, gentlemen.
Donc vous, Brian, vous êtes un fermier, c'est comme ça qu'on dit. Mais vous êtes aussi un fermier historien un petit peu.
I love history. I love farming.
Oui, j'adore l'histoire et j'adore cultiver. Donc, comme je suis agriculteur, j'ai du temps durant l'hiver pour faire des recherches. Les jours de pluie, je prends ma voiture et je vais à Détroit, dans des universités américaines. Et on trouve un petit morceau d'histoire ici, un autre là-bas. On les assemble. Il y a tellement d'histoires fascinantes à dévoiler.
Et justement, cette histoire du chemin de fer clandestin, comment est-ce que vous l'avez croisée?
J'ai vraiment commencé à m'intéresser à tout ça, à m'interroger sur mon histoire familiale, quand j'ai vu pour la première fois la série Racine à la télévision. C'était en 1977. Donc, j'ai commencé à chercher l'histoire de mes ancêtres, parce que notre histoire ne nous a pas été transmise. Je suis allé voir mon grand-père, ma grand-tante et toutes les personnes âgées que je pouvais trouver. J'ai alors élargi mes recherches parce que je ne voulais pas me contenter de l'histoire de ma propre famille. Mais je voulais découvrir les récits des personnes réduites en esclavage qui sont venues ici. Les voisins qui se sont mariés, qui sont allés à l'école ou à l'église ensemble. Alors j'ai fait le tour de toutes les personnes âgées autour de moi. Et je leur ai demandé, qu'est-ce que vous avez entendu quand vous étiez petit? Est-ce que vos grands-parents ont parlé de leur passé d'esclaves, de fugitifs? Ils m'ont tous répondu, non, ils ne parlaient jamais de ça. Mais même si vous étiez enfant, vous avez dû forcément entendre des histoires. Et tous m'ont dit non. C'est une partie tellement importante de notre histoire. J'étais vraiment surpris que ces histoires n'aient pas été transmises. Certains me disaient que c'était trop douloureux. Un peu comme des soldats qui reviennent de la guerre et qui ne veulent pas en parler à leurs enfants et à leurs petits-enfants. Donc j'ai multiplié mes recherches aux archives un peu partout, aux États-Unis et au Canada. Et c'est comme ça que j'ai été happé. Dans les récits, les fugitifs évoquaient évidemment la famille qu'ils avaient laissée derrière eux. Tous disaient vouloir rentrer aux États-Unis si un jour la liberté était possible là-bas. Et c'est ce qu'ils ont fait d'ailleurs pour beaucoup. En parlant de ça, j'ai des images poignantes qui me reviennent à l'esprit.
Black Canadians who went back to fight in the Civil War.
J'ai écrit un livre sur les Canadiens noirs qui sont revenus aux États-Unis pour se battre dans la guerre civile américaine. Un des chapitres est consacré à la fin de la guerre civile. Les gens au Canada publiaient alors des avis de recherche dans les journaux américains. Mes enfants ont été vendus en Virginie. Voici leurs noms. Quelqu'un les a-t-il vus? Quelqu'un peut-il m'aider à retrouver mes enfants? Mon mari? Mes parents? Ce sont vraiment des histoires à vous briser le cœur.
Anne Maria Jackson knew that more would be sold. Anne Maria Jackson knew she had to be bold. So she took her 7 remaining children and left Massa, left the plantation, left the pain, left the grief behind. In the month of November 1858, she arrived with her 7 children in St. Catharines, Canada, free. So this one is called Seven Children.
Ce poème s'appelle « Sept enfants ». Il parle d'Anne Maria Jackson. Elle est venue ici, du Delaware, et s'est finalement installée à Toronto. Elle est dans notre livre « Underground Railroad, Next Stop ».
Afua Cooper est historienne, auteure de nombreux ouvrages sur la question noire au Canada, et elle est aussi poète.
So she ran away from Delaware.
Donc, elle a fui le Delaware avec ses 7 enfants.
And her husband had died.
Son mari était mort parce que 2 de leurs enfants avaient été vendus. Ils en avaient 9 au départ. Et quand le maître en a vendu 2, son mari est devenu fou et il est mort.
He was gonna sell more, so she...
Comme le maître allait vendre plus d'enfants, elle a décidé de s'enfuir. Mais elle a eu de l'aide. Ma théorie, c'est que c'est Harriet Tubman qui l'a menée, parce qu'elle travaillait dans cette zone. Mais on n'a pas de preuves. À l'époque, on n'écrivait pas ces choses-là. Mais on a assez de preuves pour savoir qu'elle est arrivée à Toronto. Et son fils, ensuite, est devenu le premier postier noir de la ville de Toronto.
Ce qui est étonnant, c'est que à travers ces mots et votre façon de les vivre et de les habiter, ils sont encore très vivants, tous ces hommes et toutes ces femmes, leurs histoires, leur vie.
C'est une façon de leur donner une autre voix. J'ai toujours été attirée par les histoires des Noirs. Comment sont-ils venus ici? Je me pose toujours ce genre de questions. Moi, je viens de Jamaïque. Je suis née là-bas et la Jamaïque est une ancienne société esclavagiste. C'est une ancienne colonie britannique et avant espagnole. Quand je suis venue au Canada, j'avais très envie de découvrir l'histoire noire ici parce que je savais qu'il y avait une histoire noire au Canada. Beaucoup de mes proches ont migré jusqu'en Angleterre, aux États-Unis et au Canada. Et ces histoires transatlantiques ont toujours éveillé ma curiosité. Quand je suis entrée dans l'histoire du chemin de fer clandestin, je suis entrée dans une histoire avec de vraies personnes, avec des enfants, des hommes qui avaient un enfant ici, un autre là, qui fuyaient à travers les bois la nuit. Je veux dire, ce sont des gens en chair et en os qui réclamaient leur liberté. Beaucoup de ces histoires finissent dans ma poésie. Je crois que des fois, c'est la seule façon de donner du sens à ces histoires, de leur trouver une place dans le monde. Donc j'écris un poème, des fois j'en écris 3 différents sur le même sujet. Et la poésie me permet d'imaginer d'autres issues.
So the person who died didn't die.
Celui qui mourrait ne meurt plus. Ou alors il meurt, mais des ailes lui poussent et il s'envole, ce genre de choses. La poésie, c'est un autre langage pour engager le monde.
Going back to my great 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 grandmother.
Si on remonte à mon arrière grand-mère,
children by her slave master.
Elle a eu des enfants de son maître durant l'esclavage et elle les a amenés ici au Canada. Elle a toujours vécu seule ici. Elle ne s'est pas mariée et elle a élevé ses enfants. J'aimerais tellement en savoir plus sur elle. Je n'ai jamais rien entendu sur elle, en dehors des vieux documents que j'ai retrouvés, comme des actes officiels, des dossiers fiscaux ou des avis de décès. Mais quelle histoire cette femme devait avoir à raconter ? Et ce qu'il y a de fascinant, c'est que son maître, qui était le père de ses enfants, s'appelait Sylvanus Prince. Elle, elle avait gardé son nom, Rose. Mais tous ses enfants, eux, avaient le nom de Prince. Quand ils sont arrivés au Canada, plus tard, deux d'entre eux ont nommé leur garçon Sylvanus Prince. Et ça me paraît tellement bizarre de faire ça, de donner à ses enfants libres le nom du propriétaire d'esclaves. Est-ce que ça veut dire qu'ils avaient de l'affection pour cet homme ? Je suppose, sûrement. Mais bon, dans ce genre d'histoire, nous n'aurons certainement jamais de réponse.
Mais c'est vrai que la période esclavagiste et toutes ces relations qu'il y a pu avoir entre les esclaves et leurs maîtres, c'est compliqué parce qu'on sent que ça a créé aussi des liens. Et ça rend d'autant plus complexe toutes ces questions. Même si aujourd'hui le chemin de fer vient comme ça, comme un chemin de la liberté, où on a les Américains, les méchants esclavagistes, finalement en fait c'était bien plus compliqué que ça.
Il y a une lettre extraordinaire dans les archives d'Ottawa. Une lettre écrite par la fille d'un maître en Virginie à leur esclave qui avait pris la fuite ici au Canada. C'est une longue lettre et elle a écrit « Cher Davy ». Il s'appelait Davy. Cher Davy, tu nous manques tellement et nous ne comprenons pas pourquoi tu es parti. Nous ne t'avons jamais maltraité. Tu pensais que nous allions te vendre, mais ce n'est pas vrai. Elle continue en parlant d'une église qui a été bâtie dans la communauté. Elle parle aussi de leur repas de Noël. Il y avait une place pour lui à table, mais elle était vide parce qu'il avait fui. Le maître vieillissait, il avait le cœur brisé depuis que Davy était parti et il n'arrivait plus à travailler. En gros, ça ressemble à une lettre écrite par un vieil ami. Sauf que dans la réalité, c'est comme si le maître ne pouvait pas comprendre ce qu'il considérait, lui, comme un acte de déloyauté. Comment as-tu pu nous faire cela ? On te traitait si bien. Ouais, sauf qu'on pouvait te vendre.
Oui, parce que c'est vrai que l'esclavage et tout ce système, c'était des nœuds comme ça de relations. Mais dans ce qu'on entend, dans cette lettre, justement, est-ce que ça témoigne pas aussi de l'inconscience qu'avaient justement les propriétaires d'esclaves, entretenus sûrement, mais de ce qu'ils faisaient, de ce que voulait dire l'esclavage.
Souvent quand on pense à l'esclavage, on pense à de grandes plantations avec beaucoup d'esclaves qui travaillaient dans les champs de coton. Mais il y a eu aussi beaucoup de familles qui avaient seulement un ou deux esclaves. Donc forcément ça créait des liens entre les gens. Et des fois ça s'étalait sur plusieurs générations. En disant cela, ne croyez pas que j'édulcore l'esclavage, parce qu'il y a tellement d'histoires horribles. Mais pour moi, c'est une joie de mettre en lumière toutes ces histoires méconnues. Parce que souvent, on ne connaît qu'Harriet Tubman ou d'autres histoires célèbres. C'est important de pouvoir mettre un visage, d'incarner les histoires de tous ces anonymes. Et pas que pour leurs descendants. Ce sont des gens qui méritent qu'on se souvienne d'eux.
Michael rode the boat ashore, hallelujah. 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 This old world's a mighty big place, hallelujah. It's got Satan all over its face, hallelujah. Jordan River is chilly and cold, hallelujah. But it warms the human soul, hallelujah. So Michael rode the boat ashore, hallelujah. Michael rode the boat ashore, hallelujah.
C'est loin, c'est proche, voyage sur RFI.
Nous voici à présent à peine 1 kilomètre de la frontière des États-Unis. Juste derrière nous, il y a la rivière Détroit et la ville de Détroit. On est toujours au Canada, à Sandwich, un tout petit village qui est adossé à la ville de Windsor, devant une église historique, la Sandwich Baptist Church, qui serait la plus vieille église noire active au Canada. Et aujourd'hui, c'est dimanche, l'heure du service. Au 3652 Peter Street, dans le sobre décor en bois clair de la First Baptist, nous voilà donc parmi une assemblée noire, composée de fidèles de Windsor, mais aussi de visiteurs venus de Floride, de Chicago ou de Jamaïque. Dans cette église symbole, fondée par d'anciens esclaves venus du sud des États-Unis, l'histoire du chemin de fer prend toutes ses lettres de noblesse. La paroisse a été créée en 1840 et l'église, inaugurée en 1851 après avoir été construite, brique après brique, avec l'argile de la rivière Détroit, surnommée à l'époque la frontière fluide, The Fluid Frontier, en référence à tous ceux qui passaient au Canada. Lana Talbot, 74 ans, la fréquente depuis sa plus tendre enfance et y organise des visites guidées. Et elle insiste, les portes de l'église ont toujours été ouvertes.
This is a place of refuge. When the runaways came here,
ici, c'est un refuge. Quand les fugitifs arrivaient dans cette église, il y avait un homme du nom d'Henry Bibb qui a fondé la Voix des Fugitifs. Il les nourrissait, il les habillait, il leur montrait comment vivre. Une fois qu'ils étaient vraiment libres, la plupart du temps, ils quittaient Sandwich. Ils se savaient recherchés et allaient plus loin vers l'est ou le nord.
Donc ici, finalement, cette église, c'était une étape juste après avoir franchi la frontière américaine.
Right. Now, whenever a bounty hunter was
oui, mais dès qu'un chasseur de primes arrivait dans le quartier, on sonnait la cloche et on fermait les portes de l'église. Les fugitifs qui étaient recherchés allaient se cacher sous l'église. Là, pas loin de ces deux portes, il y avait une trappe qui accédait à une cachette creusée dans le sol. Ils pouvaient seulement s'y allonger, mais ils étaient en sécurité. Quand le chasseur de primes arrivait et cognait à la porte, tout le monde se mettait alors à chanter
«
There is a stranger at the door » et on le laissait entrer dans notre sanctuaire, mais il ne trouvait jamais personne.
Over my head I feel freedom in the air. Over my head, I feel freedom in the air. There must be a God somewhere.
Merci.
Cette chanson est une chanson chrétienne, un de nos gospels. Et dans la version longue, j'ai adapté les paroles pour qu'elles me correspondent en tant que fugitive qui a fui vers la liberté depuis les grandes plantations où j'étais retenue.
Mère, c'est étonnant, Lana, parce que vous parlez à la première personne, comme si ça vous était arrivé, justement.
Pourquoi ? Parce que c'est vraiment au fond de moi, dans mon esprit. Je crois sincèrement que je ressens les passions, les émotions que toutes ces personnes ont connues. La peur, par exemple, celle de fuir sans savoir où l'on va, cela résonne vraiment en moi, je le sens. J'avais une arrière-arrière-grand-mère qui est née en 1856 et qui est morte en 1959 à l'âge de 103 ans. Et elle me disait, Lana, je suis née dans l'esclavage, mais je n'ai jamais été une esclave. Donc c'est pour ça que je ressens ces histoires qu'elle m'a racontées petite, là où elle a dû aller et comment elle était traitée quand elle était là-bas. Donc c'est vraiment enraciné en moi, c'est dans mon ADN, comme on dit aujourd'hui.
Alors justement, votre grand-mère, elle faisait partie de tous ces réfugiés qui sont venus ici au Canada ? J'imagine que oui.
Je ne dirais pas qu'elle était une réfugiée, parce que nous avons été volés dans nos pays. Nous avons été emmenés de force, et pas seulement qu'au Canada, mais aussi aux États-Unis, au Brésil et dans les îles des Caraïbes. Nous avons été volés. Nous n'étions pas des réfugiés, mais de l'or noir. Et ils comptaient bien en tirer profit. Alors qu'on parle d'être humain, de notre humanité, ce que peut faire un être humain à un autre, je ne comprends pas. Par simple cupidité, alors qu'une vie, voire même deux vies, ne suffiront pas pour tout dépenser. Mais cela arrive encore aujourd'hui. C'est pour ça qu'il faut transmettre l'histoire afin que nous ne répétions pas les mêmes absurdités. Des fois, vous savez, je suis très émue. Ça fait mal. Underground, c'est un bon mot. C'est pour ça que dans la chanson, on dit « il y a de la liberté dans l'air ».
Donc là, en fait, Leslie, tout devant, là, ça, c'est Détroit.
Oui, c'est Détroit. Et ce qu'on fait à Windsor pour impressionner les gens, c'est qu'on les emmène au milieu de la ville, un peu en hauteur, et on leur montre la ligne d'horizon de Détroit. Et on leur fait croire que tous ces immeubles sont les nôtres. Mais à l'origine, Détroit, de part et d'autre de la rivière, c'était une même communauté. C'est quand ils ont séparé le Canada des États-Unis qu'ils ont établi la frontière au milieu du lac et de la rivière. Pour moi, cette frontière ne veut rien dire. Je la traverse aussi souvent que je traverse la rue en bas de chez moi. Mais j'imagine ce que les gens ont enduré en essayant de venir ici au 19e siècle. Je pense au courage et à la force qu'il aura fallu pour faire cette traversée.
À Windsor, point de passage historique des Freedom Seekers, Leslie McCurdy a tenu à nous emmener face à la rivière. Dans un épisode précédent, on a déjà croisé cette artiste et activiste canadienne autour de la figure d'Harriet Tubman, la célèbre conductrice ou passeuse de l'underground. Leslie, elle, est une enfant de l'underground. Son ancêtre, Nyssa McCurdy, a fui l'esclavage jusqu'au Canada en 1842. Et depuis, sa famille a toujours lutté pour l'émancipation et l'égalité des Noirs dans le pays. Howard, son père, était une figure nationale, internationale des droits civiques. C'est lui qui a convaincu le Canada de dénoncer l'apartheid en Afrique du Sud, faisant du pays le Canada le premier du Commonwealth à imposer dès 1985 des sanctions financières. Comme quoi, le chemin de fer clandestin a eu ses continuités jusqu'en Afrique. Mais retournons avec Leslie au bord de la rivière, les yeux rivés sur les États-Unis.
Si vous regardez bien, de l'autre côté de la rivière, là, il y a un grand parc. Juste en bas. Là, il y a un bateau qui passe, là, juste devant. Maintenant. Ça, c'est le mémorial du chemin de fer clandestin côté Détroit. Donc là-bas, il y a un groupe de personnes, des statues en bronze, qui semblent attendre de franchir la rivière. Alors que de ce côté-ci de la frontière, c'est la partie canadienne du monument. Les gens tournent le dos à la rivière et avancent vers le Canada. Mais il y a une femme qui regarde derrière, d'où ils viennent. Ces deux monuments sont jumeaux et se répondent. C'est un hommage international au chemin de fer clandestin entre Windsor et Détroit. Et si vous regardez en bas du monument, il y a une liste de noms. Ce sont des agents du chemin de fer clandestin. Mon arrière arrière-arrière-arrière-grand-père, Nysa McCurdy, est mentionné aussi juste là.
Et alors ce monument, effectivement, côté canadien, ici à Windsor, c'est un peu comme une obélisque, pas complètement, puisque au bout, par contre, il y a des flammes. Et en contrebas, au pied de ce grand monument, il y a des hommes, des femmes, ils sont à taille humaine. Et effectivement, cette femme regarde derrière elle, et puis de l'autre côté, il y a un groupe de femmes. Il y en a une qui tient un bébé dans les bras.
And then again, it's the...
Et puis il y a un homme noir qui lève les mains au
again,
ciel.
Reaching up to the sky to give
oui,
glory
comme s'il
thanks.
Semblait atteindre le ciel, en signe de victoire et de remerciement. Regardez!
Nysa McCurdy.
Nysa McCurdy. Et il y a aussi le nom de Marianne Chad Carey. Ce site du chemin de fer clandestin est d'ailleurs implanté à l'endroit même où elle avait établi une école, l'une des premières écoles qui, à l'époque, n'était pas ségrégée dans la ville.
Parmi ces participants ou opérateurs du chemin de fer clandestin, on retrouve des noms effectivement qu'on peut croiser quand on va sur ces chemins de cet Underground Railroad, ce chemin de fer clandestin. Dans tout l'Ontario, il y a Henry and Mary Bibb, révérend William King aussi, qu'on peut retrouver pour le coup à Buxton, John and Jane Walls, qui étaient de la famille justement de Brian Walls, si on va plus loin vers Lakeshore.
Oui, tous ces gens ont fait de grandes choses par ici. Nous devrions tous connaître les noms de ces gens qui ont fait avancer le cours de l'histoire, afin que nous soyons tous unis en tant que peuple.
Parce que c'est vrai que nous, on a fait le voyage dans tout l'Ontario, justement, sur les traces de ce chemin de fer clandestin, donc on connaît ces noms. Mais est-ce que beaucoup de gens aujourd'hui les connaissent ?
Non, ils ne les connaissent pas. Tous les gens que vous avez rencontrés, eux, les connaissent. Mais le grand public, lui, ne connaît pas ces noms et toute cette histoire. Je m'en rends compte quand je tourne avec mes pièces de théâtre dans la région. Le public est souvent surpris. Parce que ces choses-là ne sont pas enseignées correctement dans les écoles. Comme si c'était une histoire spécifique, séparée. On devrait les enseigner, surtout si nous souhaitons une société plus inclusive.
Young people in Ontario classrooms.
Les jeunes dans les écoles de l'Ontario ne sont pas censés apprendre quoi que ce soit de particulier sur l'histoire noire de l'Ontario ou du Canada. Ce qu'ils apprennent dépend uniquement du choix de l'enseignant.
Natasha Henry est présidente de la Société d'histoire des Noirs de l'Ontario.
L'école forme les citoyens de demain. Du coup, ils ne savent souvent rien de l'histoire afro-canadienne qui est très riche. C'est ce qui a contribué à la création de la Société d'histoire des Noirs de l'Ontario. Sa mission est de recueillir cette histoire et de faire en sorte qu'elle s'intègre au récit canadien. Moi, mon histoire est différente. Mes parents viennent de la Jamaïque. Ils sont venus ici à la fin des années 60 et je suis née à Toronto. À cette époque, il y a une forte immigration caribéenne, des femmes qui viennent au Canada pour travailler comme domestiques dans les maisons ou des jeunes qui viennent suivre des études. Et donc cela a conduit à un nouveau militantisme dans le paysage canadien. On ne peut pas dire que cette histoire de l'esclavage ou de résistance à l'esclavage soit liée à un seul territoire. Toutes ces histoires de l'esclavage s'inscrivent dans une longue période, en marge de l'impérialisme et de la colonisation européenne. Moi-même, en tant qu'enseignante, je travaille beaucoup à transmettre ces histoires aux enfants noirs, car elles peuvent les aider à mieux savoir qui ils sont. Nous devons parler de la façon dont ont été traités ou maltraités les afrodescendants, en tant que groupe racialisé et opprimé. Tout cela fait partie de l'histoire canadienne, car oui, l'histoire noire fait partie de l'histoire du Canada.
It is definitely, you know, Black history is Canadian history.
These Underground Railroad stories
of the 19th century, we have to link
ces histoires du chemin de fer clandestin du 19e siècle, nous devons les relier avec les nouvelles histoires d'aujourd'hui.
After the Second World War,
après la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu des vagues importantes d'immigration noire au Canada, venant des Caraïbes et d'Amérique du Sud.
After, let's say, 1980, more migration.
Et après les années 90, on retrouve surtout des gens venant d'Afrique continentale, immigrés ou réfugiés.
And this is where I think there's an amnesia in people who do public policy.
C'est ce qui me fait dire que l'amnésie domine parmi ceux qui font les politiques ou les études migratoires, parce qu'ils ne raisonnent qu'en temps réel. Ils ne pensent qu'à aujourd'hui. Il faudrait leur rappeler que les premières politiques en matière d'accueil des réfugiés dans le pays sont nées avec les fugitifs du chemin de fer clandestin, mais aussi avec les réfugiés de 1812, après la défaite britannique dans la guerre anglo-américaine. À ce moment-là, le gouvernement a dû légiférer sur les lois des réfugiés.
Vous voulez dire par rapport aussi à une tradition d'accueil ou un devoir ?
Oui, c'est ce que je pense. Les réfugiés, quand ils arrivent ici, se sentent tellement perdus et aliénés. Or, si on reliait le passé au présent, si on reliait les histoires de ces esclaves fugitifs à celles des nouveaux arrivants, je pense que ça leur donnerait de l'espoir. Surtout qu'avec le chemin de fer, le monde entier quasiment était pour l'esclavage, et donc contre eux. Leur action individuelle, mais aussi collective, peut servir d'exemple aux gens aujourd'hui. Parce que de nos jours, les Noirs, à l'heure actuelle, sont encore confrontés au racisme au Canada.
The sound of the birds taking off scared you last night. Though they were right to leave, right to use their wings to fly. So the sound of the birds taking off scared you last night. Though they were right to leave, right to use their wings to fly. I just can't figure out, is it too late or too early? Is it right on time? Could it be right on? If the crow said it right, we could move out by dawn early. Could be right on time. Could be right on. So the sound of the birds taking off scared you last night. Though they were right to leave, right to use their wings to fly. So the sound of the birds taking off scared you last night. Though they were right to leave, right to use their wings to fly.
The United Nations Human Rights Working Group came here.
Le groupe de travail sur la question des droits de l'homme des Nations Unies est venu ici au Canada en 2016, il y a 3 ans, et ils ont examiné la situation des Noirs au Canada. Ils ont étudié l'éducation, le système de justice pénale, le logement, la santé des enfants, ainsi que l'emploi. Et toutes leurs conclusions étaient négatives pour ce qui est de la communauté noire à travers tout le pays. Le gouvernement canadien n'a toujours pas répondu à leur rapport. Je ne dis pas que les choses ne se sont pas améliorées depuis le chemin de fer clandestin. Bien sûr qu'elles se sont améliorées. Les gens ne sont plus réduits en esclavage. Nous n'avons plus de lois spécifiques qui favorisent la ségrégation, par exemple. Mais à bien des égards, la situation demeure alarmante. Il suffit de regarder le taux d'incarcération ou d'interpellation des Noirs par la police.
Halifax, it's 9 times.
Par exemple, dans la ville d'Halifax, où je vis, un noir est interpellé 9 fois. 9 fois plus qu'un blanc. Et il y a un terme précis pour cela. C'est ce qu'on appelle le racisme anti-noir. Parce que ce n'est pas que du racisme. C'est un racisme dirigé et organisé exclusivement contre les Noirs à l'intérieur de l'État canadien. C'est un héritage de l'esclavage, parce qu'à travers l'Amérique, du Canada à l'Argentine, pendant des siècles, être esclave veut dire être noir. Donc c'est l'une des raisons pour laquelle nous avons encore ce racisme anti-noir dans le pays. Parce que l'histoire noire au Canada, depuis quoi ? 1628, et surtout celle de l'esclavage. Pendant plus de 2 siècles, on peut alors dire que les Noirs ont été à ce jour réduits en esclavage plus longtemps dans ce pays qu'ils n'ont été libres. Et cela n'a pas été questionné de manière durable et effective. Bien sûr, nous avons connu un mouvement des droits civiques dans les années 60-70, et cela a permis de repousser ce racisme anti-noir. Mais ça n'est pas allé assez loin, parce que certains groupes de pouvoir et de pression veillent à maintenir la situation telle qu'elle est. Si vous regardez aujourd'hui, la suprématie blanche est encore profondément enracinée dans nos sociétés. Et malgré quelques avancées dans les droits de certains groupes, il y a toujours des gens qui œuvrent en coulisses pour revenir sur ces droits si les gens ne sont pas vigilants.
Donc il faut rester justement vigilant. Et ça fait penser évidemment au Vigilance Committee, les comités de vigilance qu'il y avait justement dans le chemin de fer clandestin.
Oui, c'est intéressant. C'est vrai qu'il y avait ces comités qui veillaient sur les fugitifs à l'époque. Ma théorie, et elle n'a rien d'original, beaucoup l'ont déjà dit, c'est que la liberté des Noirs depuis l'émancipation n'est toujours pas pleine et entière. Nous ne sommes toujours pas complètement libres. Et je crois que beaucoup de communautés noires ici en Amérique du Nord vivent encore, pour ainsi dire, comme des fugitifs. Je le pense vraiment. Nous continuons à établir des communautés de marrons, consciemment ou inconsciemment. Il y a ces mots qui viennent du Kenya, de l'ancien leader kényan, Odinga, c'est son nom. Il a écrit un livre sur le fait de ne pas être encore Uhuru. C'était après l'indépendance du Kenya. Ce qui veut dire « la liberté n'est pas encore là ». Je me rappelle toujours de ces mots quand je pense à mes frères noirs, ici en Amérique, mais aussi peut-être en Afrique. Partout, en fait, où vous avez des noirs en Europe, en France, en Allemagne ou au Danemark, « not yet Uhuru », la liberté n'est pas encore là. Donc, le chemin de fer clandestin continue.
Le chemin de fer clandestin au Canada, voyage, en quête de liberté, c'était une série radiophonique en 3 épisodes de Laure Allary et Céline Develay-Mazurel. Un grand merci à Laure, mon acolyte de voyage et de son. Merci à tous les descendants des Freedom Seekers, passeurs de mémoire et d'histoire qui nous ont reçus et guidés sur ce chemin de fer. Merci à l'historienne Afua Cooper et à Natasha Henry de la Société d'Histoire des Noirs de l'Ontario. Merci à toutes les voix amies qui nous ont offert de leur temps pour vous faire entendre ce programme en français. Merci à Manon Meillard-Ilfiger, Raphaël Constant, Sarah Lefebvre et Manuela Bermudez, et merci à Agnès Kremp et son équipe du studio graphique de France Média Monde. Merci enfin à Sandra Tickle et son équipe, ainsi que Ray Stephen pour leur accueil bienveillant en Ontario. Cet épisode et les 2 précédents sont disponibles à la réécoute en podcast, et n'oubliez pas, face à l'injustice, soyez désobéissants, dissidents et résistants. À la fin de sa vie, Frédéric Douglas, abolitionniste noir et grande figure du chemin de fer, livrait ce seul conseil: agitate, agitate. Soit agité, agité. Chers auditeurs, à la semaine prochaine pour un autre voyage.